Le journal Yves Decamp, bonjour.
Bonjour. 290 morts et plus de 500 blessés. Le bilan s'est encore alourdi au Sri Lanka au lendemain des attentats qui visaient 4 hôtels et 3 églises. Les attentats ont été attribués par la police à un mouvement islamiste local. 24 personnes ont été arrêtées, toutes de nationalité sri-lankaise. 87 détonateurs ont été retrouvés ce matin dans une gare routière à Colombo. Une élection dans un fauteuil pour Volodymyr Zelensky en Ukraine, élu à plus de 73%. Mais que fera-t-il de ce fauteuil de président sans aucune majorité au Parlement et sans aucun parti? Moscou, qui salue son élection, dit ne se faire aucune illusion pour la suite. Une quatrième inculpation pour Carlos Ghosn, l'ex-patron de Renault-Nissan, retourné en prison début avril et mis en examen pour abus de confiance aggravé après une nouvelle plainte déposée par le constructeur japonais. Ses avocats demandent sa remise en liberté sous caution. Dans ce journal également, un journaliste indépendant en garde à vue depuis samedi à Paris, une atteinte à la liberté d'informer pour le SNJ. Il a commis des infractions, précisent les autorités. Le nord de la Bretagne en alerte rouge à la pollution de l'air, à Brest et Saint-Malo notamment. Qualité jugée mauvaise à très mauvaise. Invité de ce journal, le président de l'association Air Braise, Alain Laplanche. Le Paris Saint-Germain champion de France, mais peut mieux faire, beaucoup mieux faire. Il y a des choses à revoir pour l'année prochaine. Rondelette, et alors, contre les canons de la beauté, elles sont une quarantaine de femmes qui manifesteront le week-end prochain à Paris.
On va voir des femmes de tous les jours qui ont ce qu'on appelle des défauts, entre guillemets, mais qui en fait n'en sont pas, parce que la plupart des femmes ont ces défauts de la cellulite, des vergetures, du ventre, des hanches, etc. Et en fait, ce sont ces femmes de tous les jours qui s'assument, qui ont envie de le montrer et qui ont envie de donner l'exemple.
Georgia Stein du mouvement The All Sizes Catwalk, toutes les tailles sur le podium, c'est la chronique du lundi de Sandrine Houdin. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Du vent dans le sud.
Oui, jusqu'à 90, 100 km à l'heure sur le Var, sur la Haute-Corse, 100 à 130 pour la Corse du Sud en vigilance orange jusqu'en milieu d'après-midi. Alors sur l'ouest et sur le sud du pays, là, les nuages sont là ou alors ils arrivent avec quelques ondées. On a de la pluie sur l'est de la Corse et puis pour le soleil, direction un grand quart nord-est, Île-de-France comprise. Il fait encore très doux aujourd'hui, 20 à 26 degrés et même 27 pour Grenoble.
Le bulletin complet, bien sûr, en fin de journal.
France Inter.
290 morts, au moins 500 blessés. Le bilan des attentats de Pâques au Sri Lanka s'est encore alourdi. 8 explosions au total qui visaient 4 hôtels et 3 églises en différentes parties de l'île. Parmi les victimes figurent une quarantaine d'étrangers, dont une dizaine ont été identifiés. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais la police locale annonce avoir arrêté 24 personnes, membres d'un mouvement islamiste local. On va y revenir. Les habitants de la capitale Colombo ont été invités à rester chez eux, autant que faire se peut. Mais depuis la levée du couvre-feu à 6h, la vie a repris ses droits peu à peu. Reportage dans l'une des églises visées à Colombo, Antoine Guinard.
Des éclats de verre jonchent encore la route qui passe devant ce monument symbolique de Colombo, éventré par l'attentat à la bombe de dimanche. Derrière le cordon policier qui ceinture l'entrée de l'église Saint-Antoine, son administrateur, le prêtre Jude Fernando, était présent pendant les attentats et raconte la scène.
Je suis vivant par la grâce de Dieu. À 8h45, l'explosion a retenti. Je n'avais jamais entendu une telle explosion. J'ai vu dans l'église les dégâts, les morts et les blessés. Avec l'aide du prêtre, on a évacué les blessés vers l'hôpital, puis les forces de sécurité sont venues en renfort.
À quelques rues de là, une famille se recueille autour du corps d'un père de famille tué dans l'explosion de l'église Saint-Antoine pendant la messe de Pâques. Plusieurs veillées et événements commémoratifs sont prévus dans les jours qui viennent. Pour la communauté chrétienne la plus directement touchée par ces attentats, mais aussi l'ensemble des Sri Lankais, ces actes de violence viennent briser 10 années de paix et d'harmonie, malgré les tensions intercommunautaires parfois palpables ces dernières années. Colombo, Antoine Guinard, France Inter.
Un engin artisanal a été retrouvé près de l'aéroport. 87 détonateurs dans une gare routière. Ce qui veut dire que tout danger n'est évidemment pas écarté. Le couvre-feu sera d'ailleurs reconduit la nuit prochaine. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais 24 personnes ont été arrêtées, toutes de nationalité sri-lankaise. Sébastien Farcy, vous êtes à New Delhi, en Inde, un pays voisin. Que sait-on de la motivation de ces suspects, de leur motivation politique ou religieuse?
Eh bien,
le gouvernement s'est exprimé il y a quelques heures et selon son porte-parole, eh bien, ces attaques ont bien été perpétrées par les Sri Lankais avec l'aide d'un réseau terroriste international. Selon le porte-parole, donc, 7 kamikazes auraient fait exploser la bombe qu'ils portaient et seraient morts sur le coup. Ils auraient appartenu à un groupe local, le National Tawhid Jamaat, une organisation islamiste qui milite pour l'instauration de la charia dans l'est du Sri Lanka et qui a récemment vandalisé des effigies bouddhistes. Aucune preuve ni revendication pour l'instant, mais les services sri lankais de renseignement étaient au courant depuis 10 jours déjà de la possibilité d'une telle attaque par le Tawhid Jamaat. L'ampleur de l'assaut et le choix de viser des lieux chrétiens et non bouddhistes indiquent toutefois une possible implication d'un groupe djihadiste international, comme l'organisation de l'État islamique qui est déjà présente au Bangladesh et aux Maldives voisins. Du reste, les opérations de déminage continuent sur l'île, comme vous le disiez. La police vient de découvrir 87 détonateurs près d'un arrêt de bus et une bombe a été désamorcée près d'une autre église. Ce soir, le couvre-feu sera imposé pour la 2e nuit consécutive et le président va signer un décret offrant aux forces de sécurité des pouvoirs spéciaux dans leur lutte antiterroriste.
Sébastien Farcy en direct de New Delhi, des attentats qui laissent craindre bien sûr une reprise des violences communautaires. La police annonce d'ailleurs qu'une mosquée a été visée par un cocktail Molotov. Le président sri-lankais Sirisena a réuni son conseil national de sécurité. En Ukraine, après la victoire du favori Zelensky, et maintenant l'humoriste comédien complètement novice en politique a battu haut la main le président sortant Porochenko avec plus de 73% des suffrages, lequel a d'ailleurs aussitôt reconnu sa défaite, mais c'est une période d'incertitude qui s'ouvre pour le pays. Volodymyr Zelensky n'étant soutenu par aucun parti, ne disposant surtout d'aucune majorité parlementaire, sa priorité, ce sera, dit-il, de relancer le processus de paix avec Moscou et de faire rentrer tous les prisonniers, mais plus facile à promettre qu'à faire, sans doute. Claude Bruyot, vous êtes à Kiev, le président ukrainien a de grands pouvoirs, mais il ne peut pas tout seul.
Absolument. Bonjour Yves. La période qui s'ouvre est délicate pour Volodymyr Zelensky. Il doit en priorité essayer de nouer des alliances avec les membres d'autres partis que le sien pour tenter de se fabriquer une majorité au sein du Parlement ukrainien. Les législatives sont programmées pour dans 5 mois, mais d'ici là, il doit aussi donner des garanties de crédibilité en prenant par exemple des mesures qui serait comprise par le plus grand nombre. On cite notamment la revalorisation des traitements des enseignants en piochant dans la réserve budgétaire. Et puis, sur le front de la lutte contre la corruption, dont Volodymyr Zelensky a fait son cheval de bataille pendant la campagne, il peut décider, par exemple, d'augmenter le nombre des enquêteurs. Ils ne sont que 700 aujourd'hui dans tout le pays. Et surtout, essayer de garantir leur indépendance vis-à-vis des services de sécurité. Le point le plus sensible, évidemment, va concerner les premiers contacts avec la Russie à propos de l'annexion de la Crimée, de la guerre dans le Donbass. Zelensky a d'ores et déjà annoncé son intention de solliciter le Kremlin pour relancer le processus de paix afin de garantir un vrai respect du cessez-le-feu, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Claude Bruyot, à Kiev, à propos de la Russie, par la voix de son Premier ministre Dmitri Medvedev, Moscou dit espérer une amélioration de ses relations avec l'Ukraine en ajoutant aussitôt qu'il ne se faisait pas trop d'illusions. Et de 4 pour Carlos Ghosn au Japon, l'ancien patron de Renault-Nissan dont la garde à vue arrivait à son terme aujourd'hui a été de nouveau inculpé ce matin sur des accusations de détournement de fonds. Nissan annonce avoir porté plainte au pénal pour abus de confiance aggravé, en réclamant, je cite, des sanctions sévères et appropriées. Yann Rousseau.
Cette fois, le parquet de Tokyo soupçonne l'ancien patron de Renault et Nissan d'avoir organisé pendant plusieurs années des détournements de fonds par le biais de ce que les enquêteurs appellent la filière Doman. Donc selon eux, Carlos Ghosn a ordonné le virement par le biais d'une filiale de Nissan au Moyen-Orient d'au moins 10 millions de dollars vers un distributeur basé à Oman. Officiellement, il avait expliqué que ce groupe, qui gère les concessionnaires Nissan et Renault dans la région, devait se faire rembourser des dépenses marketing exceptionnelles. Mais les procureurs ont découvert que ce distributeur avait ensuite retransféré 5 millions de dollars vers une petite entreprise libanaise liée, elle, directement à Carlos Ghosn. Et cette petite société aurait ensuite utilisé l'argent arrivé d'Oman pour notamment financer la start-up du fils de Carlos Ghosn et pour payer une partie du yacht de luxe qui était utilisé par la famille. Ce yacht est la propriété d'une entreprise contrôlée par Carole, son épouse. Carlos Ghosn affirme qu'il est innocent de toutes ses charges et ses avocats ont déposé ce soir une demande de libération sous caution qui devrait être tranchée en milieu de semaine.
Et Yann Rousseau à Tokyo.
France Inter, le journal de 13h. Yves Decamp.
La Bretagne en alerte rouge à la pollution de l'air dans sa moitié nord. En tout cas, comme il y a deux semaines, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor et le Nord Finistère enregistrent un niveau élevé de particules fines. Saint-Malo et Brest sont les villes les plus touchées avec un indice de 8 sur 10. Ce qui veut dire qualité de l'air mauvaise à très mauvaise. On va voir pourquoi dans un instant. Mais d'abord, un témoignage. Ce patron d'hôtel, Emmanuel Le Goupil, joint à Saint-Malo par Sébastien Sabiron.
Visuellement, on a un ciel bleu. Si vous levez la tête, vous vous rendez compte de rien. D'un point de vue respiratoire, quand vous sortez dans la rue, vous ressentez rien du tout. Hein. Donc c'est assez étonnant. Bon, moi je pratique un petit peu la voile et ça fait quand même un petit moment qu'on ne peut pas le pratiquer. Il n'y a pas de vent. Par exemple, on avait les grandes marées ce week-end. Quand il y a les grandes marées, bon bah les gens viennent pour le spectacle, les vagues qui débordent et tout ça. Là, on a une mer d'huile, une mer plate. Car la mer est très très haute, mais plate, ça bouge pas. Les touristes viennent pour profiter du bon air, en n'imaginant pas qu'il puisse y avoir des pics de pollution. Et si ça venait à se répéter ou à devenir quelque chose de récurrent, je pense que ça pourrait impacter le fait que les gens puissent décider de venir passer quelques jours à Saint-Malo. Effectivement, oui. Le climat change d'année en année, et véritablement. Quoi. Et c'est très inquiétant, bien sûr.
Invité de ce journal, Alain Laplanche, président de l'association Air Braise, qui mesure au quotidien la qualité de l'air breton. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous venez de l'entendre, hein, rien de visible, en tout cas à Saint-Malo, aucun ressenti, c'est normal?
Alors, parfois, on peut voir ces particules fines quand on est sur des tours en hauteur, et quand on regarde l'horizon, on voit une espèce de halo jaunâtre, disons un petit peu brunâtre, mais quand on est au ras du sol, au niveau de la mer, il y a, disons, peu de chances que l'on voit ces particules fines en suspension dans l'air. Alors elles sont très fines, hein. Elles font moins de 10 microns.
Alors justement, de quoi s'agit-il précisément? Que sont ces particules fines exactement?
Alors, les particules fines, ce sont, comme leur nom l'indique, des genres de poussière microscopiques en suspension dans l'air qui peuvent avoir des origines extrêmement nombreuses. Actuellement, on peut dire que cette pollution actuelle là est due sans doute à une association de plusieurs types de particules. On peut imaginer qu'il y a notamment des particules qui viennent sans doute de l'extérieur de la Bretagne. Nous avons, là le temps est en train de changer, mais nous avions un flux de nord-est avec, disons, ce qui peut venir donc de nos voisins normands, des Hauts-de-France.
Ah, ça y est, vous accusez les Normands.
Non, on n'accuse personne, si vous voulez. C'est une conjonction de plusieurs choses. Donc il y a ce qui peut venir de l'extérieur, voilà, et ce qui vient également de la Bretagne, et ça peut être le même type de particules. Nous sommes en période, donc, d'inversion de température, mais je vous expliquerai ça peut-être tout à l'heure après, en période où on peut avoir à la fois de la pollution automobile et à la fois de la pollution en provenance du milieu agricole. L'automobile, ce sont les oxydes d'azote, le milieu agricole, c'est l'ammoniac, et lorsque tout ça se mélange dans la haute atmosphère, ça fait des particules de nitrate d'ammonium qui peuvent être relativement agressives pour les gens qui sont sensibles aux voies respiratoires.
Quand vous parlez d'agriculture, c'est quoi c'est l'épandage?
Ben voilà, on est en pleine période d'épandage, il fait beau, le temps est calme, donc ces masses d'air se rencontrent et on peut très bien avoir ces formations de ces particules-là.
Alors pourquoi dans le nord de la Bretagne? Parce qu'on respire un peu mieux hein, ce matin dans le Morbihan ou la région de Quimper et même à Rennes.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, nous allons lever l'alerte pollution pour le département d'Ille-et-Vilaine. Nous la conserverons que pour le département des Côtes d'Armor et du Finistère.
Alors pourquoi le Nord?
Bah, tout ça, ce sont des conditions atmosphériques. Si vous voulez, la pollution atmosphérique, ce qu'il faut bien comprendre, est essentiellement due à des conditions atmosphériques. Aujourd'hui, en Bretagne, nous sommes en une période complètement anticyclonique. Il fait du soleil, il fait beau. Et il n'y a pas de vent. Ceci, le matin, les températures sont relativement fraîches. Et donc, les météorologues vont vous dire qu'il y a ce qu'on appelle une couche d'inversion. C'est-à-dire que la température au sol, elle est plus froide. Elle est plus froide, oui, que la température en haut, mettons à 100 mètres, 200 mètres. Ça peut être même 50 mètres. Et de ce fait, la cheminée naturelle qui fait que l'air chaud monte ne fonctionne pas. Et donc, on garde toutes ces particules au niveau de notre sol, celles qui viennent de local, toutes les poussières, que ce soit du chauffage, des voitures, de l'abrasion des routes, de l'abrasion des freins, etc., vont se cumuler avec d'autres poussières qui peuvent aussi venir de l'extérieur. Et par exemple, actuellement, quand on regarde les modèles de prévision, le vent a tourné, on a un vent de sud, et nos modèles nous disent qu'on va avoir des particules très fines qui vont venir du Sahara.
Ah oui, effectivement. Voilà. Là, ce seront plus les Normands. Merci beaucoup Alain Laplanche, président de l'association Airbraise. Et à propos de Normandie, le département de la Seine-Maritime, lui aussi, est placé en vigilance orange à la pollution aux particules. Merci beaucoup Alain Laplanche. Voilà. On a plus de temps. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous. Deux pompiers en urgence absolue ce midi après un accident sur le périphérique ce matin. Ils ont été percutés par un véhicule roulant à vive allure alors qu'ils étaient en train de baliser un précédent accident. L'indignation et la colère, deux jours après les slogans anti-flics repris en chœur par des groupes de manifestants samedi, slogans et banderoles qui appelaient les policiers au suicide, la colère ne s'est pas apaisée. Le syndicat Alliance Police répète qu'il attend de l'enquête ouverte par le parquet des arrestations et des condamnations extrêmement fermes. En même temps, c'est l'attitude des policiers qui a également été pointée du doigt ce matin par une petite centaine de personnes rassemblées devant le commissariat du 12e pour réclamer la libération de Gaspard Glantz, journaliste indépendant, placé en garde à vue samedi en marge de la mobilisation des Gilets jaunes, interpellé non pas S-qualité, a précisé le ministère de l'Intérieur, mais en raison des infractions qu'il aurait commises. Atteinte à la liberté d'informer, répondent ses soutiens. Béatrice Duguet, il y a des ambiguïtés de part et d'autre.
Petit clin d'œil sous le nez des policiers d'abord pour commencer le rassemblement ce matin.
On fait une petite banderole pour l'anniversaire de Gaspard. Il va le passer en prison. Du coup, il y a des petites bougies et on lui fait une banderole.
31 ans aujourd'hui pour ce journaliste militant spécialisé dans la couverture des mouvements sociaux, fondateur de Taranis News, une société de production. Il affirme avoir été visé samedi après-midi par une grenade à effet multiple de la part des CRS et il aurait été interpellé pour avoir protesté vivement auprès des forces de l'ordre. Garde à vue inutile pour Raphaël Kempf, son avocat, qui y voit une sorte d'acharnement.
Vous avez pu couvrir la manifestation de samedi, vos images, vos papiers ont pu être publiés. Gaspard Glantz en garde à vue, il n'a pas accès à ces images, il ne peut pas informer, il ne peut pas montrer ce qui s'est passé et ce qu'il a vu. Donc de ce point de vue-là, la garde à vue de Gaspard Glantz est manifestement disproportionnée. Je la considère en outre comme étant illégale et comme une atteinte à la liberté de la presse, à laquelle nous sommes évidemment, et surtout vous, tous extrêmement attachés.
L'ambiguïté, c'est que ces reporters, activistes, diront certains, n'ont la plupart du temps pas de carte de presse parce qu'ils sont nés en opposition aux médias conventionnels, en dénonçant leur travers, leur mollesse souvent, parce que la carte est assujettie aussi à des revenus et que les indépendants photographes, caméramen peinent à gagner leur vie. La carte ne fait pas le statut, en fait, pour l'avocat, comme pour Yvan Le Bolloc, comédien présent devant le commissariat du 12e arrondissement ce matin à Paris.
Mais s'ils ne sont pas là, ces gars-là, si les journalistes ne sont pas là pour nous montrer comment ça se passe dans les arrière-cours, quand il y a les mecs de la BAC qui tombent sur une poignée de manifestants et qui leur ravagent la gueule, qui va le savoir? Qui va nous le montrer? Qui va nous le dire?
Gaspard Glantz est en voie de déferlement au parquet. Il est inquiété, selon son avocat, pour participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations.
Béatrice Duguet. Dans un mois, les Européennes, ou presque, le 26 mai précisément, c'est une semaine spéciale européenne qui s'ouvre ce lundi sur France Inter avec cette question qui sera posée ce soir. Dans un jour dans le monde, l'Europe sert-elle à quelque chose? Plusieurs réponses ont été déjà déclinées ce matin. En voilà une autre que certains jugeront peut-être anecdotique, mais c'est un fait. L'Europe a au moins permis aux Européens de s'aimer les uns les autres. Merci Erasmus. En France, 23% des couples sont binationaux, à 85% d'ailleurs intra-européens. Effet Erasmus, mais pas seulement, puisque des couples sont plus anciens que le célèbre programme d'échange entre étudiants. Exemple, avec Hans Peter, un Allemand venu travailler en France en 75, d'où il n'est jamais reparti à cause ou grâce à Martine. Il raconte à Delphine Evenoux cet épisode qui l'a rendu francophile et européen.
Vous rappelez peut-être qu'en 63, Adenauer et De Gaulle, ils ont signé un traité de l'amitié. Alors ça a eu comme conséquence immédiate, hein, qui est venu un échange d'étudiants et d'élèves. Moi, j'étais en première au lycée à l'époque. Hein. J'étais sélectionné pour cet échange, hein, et j'ai eu le grand plaisir de passer Je pense que c'était deux mois de l'été 63 au lycée Carnot à Cannes, dans une ambiance internationale complètement vibrante, parce que c'était un lycée international. Il y avait des Norvégiens, des Italiens, des Allemands, des Autrichiens, des Anglais. Et alors c'était 63, c'était Cannes, c'était Johnny, Sylvie et tout ça. Et ça m'a rendu complètement francophile.
Voilà, vous n'avez pas Johnny et Sylvie en Allemagne. Reportage complet à retrouver après 18h dans Un jour dans le monde. C'était il y a une semaine, déjà une éternité, le toit de Notre-Dame était emporté par les flammes. En ce week-end de Pâques, la cathédrale a ressuscité. Le ministre de la Culture l'a dit, Notre-Dame est sauvée. Ce qui menaçait de s'effondrer a pu être consolidé. Hier, c'est en l'église Saint-Eustache qu'était célébrée la messe de Pâques avec l'un des trois organistes de Notre-Dame, évidemment très ému, Mathieu Mandoloni.
Quand Philippe Lefebvre s'assoit devant les impressionnants claviers de l'orgue de Saint-Eustache, c'est évidemment avec une pensée émue pour Notre-Dame de Paris.
On oublie un des mots les plus importants, c'est Notre-Dame. Et je pense que c'est ça qui a été ressenti dans le monde, c'est que cette cathédrale, c'est la cathédrale de tout le monde, c'est la nôtre.
L'organiste est désormais sans orgue, mais il a trouvé pour cette messe pascale un refuge bienvenu à Saint-Eustache.
Cette solidarité, c'est un élément fondamental et c'est ça la vie des musiciens. C'est que dans tous les moments, heureux et malheureux, il y ait ce partage. C'est ça notre vie.
Une immense solidarité qui a beaucoup touché Philippe Lefebvre.
On a reçu des milliers de messages, que ce soit des mails, des SMS, du monde entier.
La première fois qu'il a joué sur le grand orgue de Notre-Dame, c'était il y a 50 ans. Alors forcément, il rêve de retrouver au plus vite son instrument.
C'est une relation charnelle. Et c'est ce que tous les organistes qui viennent jouer à Notre-Dame depuis tant d'années ressentent. Et ça, c'est un endroit unique pour ça.
L'organiste ne sait pas précisément dans quel état il va retrouver son instrument. Il espère simplement pouvoir un jour poser à nouveau ses mains sur l'un des cinq claviers de ce grand orgue, considéré comme l'âme de Notre-Dame.
En sport, le PSG officiellement champion de France, cette fois c'est fait, 3 buts à 1 contre Monaco, 3 buts de Mbappé et le 8e titre est donc définitivement gagné, mollement célébré d'ailleurs par les supporters qui attendaient mieux qu'un simple titre de champion de France cette année, et même s'il reste encore la finale de la Coupe de France à disputer, ce qu'on retiendra surtout de cette saison parisienne, ce sont encore les ratés de la fin de saison. Fanny Lechavestrier, ce sacre poussif ne pourra pas masquer longtemps les déceptions et la crise qui couvre en coulisses.
Car au moment des premiers bilans reste cette élimination prématurée en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale, telle une balafre, une cicatrice de laquelle, depuis, le pus suinte au grand jour. A commencer par l'image de ce duo intenable entraîneur, directeur sportif Thomas Tuchel, Antero Henrique, qui se détestent cordialement et ne s'en cachent même plus, offrant au public une situation digne d'une cour de récréation, mais certainement pas celle d'un grand club. On imagine mal cette cacophonie perdurer sous peine de revivre la même saison sans véritable maître à bord. Tout comme Paris devra enfin se trouver un capitaine capable de motiver ses ouailles tout du long et de ramener certains au bercail la nuit venue. Cela aura peut-être une première conséquence, une baisse du nombre de ses blessés, car pour faire plus que de rêver d'Europe, le PSG a besoin d'un Neymar ou d'un Verratti sur les moments clés de la saison, et pas seulement quand tout est déjà gagné ou perdu.
Autre lot de consolation possible, donc on l'a dit, c'est la Coupe de France, samedi soir prochain, PSG face à Rennes. Allez, pour terminer, un défilé pour le moins insolite. Dimanche prochain, sous la Tour Eiffel, une quarantaine de femmes en petites culottes et soutien-gorge. Pas des femmes, non, même s'il s'agit bien d'une manifestation féministe. C'est contre la dictature de la minceur que ces femmes du mouvement Viol Size Catwalk veulent s'insurger en proclamant haut et fort que oui, nous sommes rondelettes. Et alors, en tête de ce défilé hors norme de 42 mannequins XL ou XXL, Georgia Stein, 32 ans, elle a déclaré la guerre au pseudo-canon moderne de la beauté. C'est l'actu du lundi de Sandrine Houdin.
Dimanche, au Trocadéro à 11h30, on va voir des femmes de tous les jours qui ont ce qu'on appelle des défauts, entre guillemets, mais qui en fait n'en sont pas, parce que la plupart des femmes ont ces défauts de la cellulite, des vergetures, du ventre, des hanches, etc. Et en fait, ce sont ces femmes de tous les jours qui s'assument, qui ont envie de le montrer et qui ont envie de donner l'exemple. Elles vont défiler en petite culotte, quoi. Elles vont être fières pour tout montrer, on n'a pas honte.
Fières de quoi ?
Fières de ce qu'elles sont. Voilà. Le problème actuellement en France, c'est que ces femmes ne sont pas représentées. Elles sont représentées que par des mannequins qui sont magnifiques, elles sont faites au moule, elles font une taille 36. Mais le problème, c'est qu'elles ne représentent pas la majorité de la femme française. La femme française, en moyenne, fait une taille 42. Et sur les podiums, sur tous les produits marketing, les publicités, on ne les voit pas, elles ne sont pas là. On veut quelque chose de plus réaliste, on veut être représenté, on veut pouvoir s'identifier.
Quel est le risque à ne pas pouvoir s'identifier?
Ça peut être traumatisant, par exemple, pour les adolescentes, hein, des adolescentes qui sont en surpoids, qui se font critiquer, qui se font moquer. Et en fait, cet harcèlement physique peut être hyper traumatisant par la suite pour leur vie de femme. Hein. Tout ça vient de là, en fait, à chercher cette perfection. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des femmes minces hein, qui n'arrivent pas à prendre du poids. Elles aussi, elles sont complexées.
Qu'est-ce que vous voulez en fait? Vous voulez obtenir quoi?
Qu'il y ait un déclic en fait pour les femmes, qu'elles se disent bah en fait je suis belle, en fait je suis normale en fait. Ce que j'ai en trop ou trop peu, c'est normal.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça passe par quoi?
Qu'on voit sur les podiums non pas que des tailles 34-36, mais que l'on voit aussi des mannequins de la confection 40-42-46 qui pourraient représenter la majorité la femme française.
La France est très en retard?
La France est très en retard. Tous les pays anglophones, que ce soit aux États-Unis, en Angleterre, en Australie, ça marche mais tellement bien. Ces femmes, elles sont représentées jusqu'à la confection 56, quoi. Elles sont toutes représentées. Et ça marche. Et ça vend surtout. C'est devenu normal, voilà. Dans toutes les Fashion Week maintenant à New York, c'est devenu normal de ne plus voir des mannequins de la taille 36. Maintenant, il y a des femmes de toute confection qui défilent. Et c'est formidable. En France, on est vraiment très en retard maintenant.
Rien n'a changé? Rien n'évolue?
Alors, ça évolue, mais vraiment petit à petit. Tout doucement, à la dernière Fashion Week de Paris, deux grandes marques internationales ont fait défiler des femmes qui ont des formes, des mannequins grande taille. Et ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie, ça veut dire qu'en fait, ce mouvement, ce combat, il n'est pas si ridicule que ça en fait.
C'est pas un peu naïf quand même de se dire qu'un défilé comme ça au Trocadéro va changer les choses?
Peut-être que oui, c'est juste que... Si on le fait pas, personne le fera, ça se fera jamais, et puis on saura pas, quoi. Donc, autant essayer, et puis on verra bien. Les femmes, elles en ont besoin. Elles en ont juste besoin. Et si on peut créer un buzz autour de nous, autour de ce mouvement, autour de ce message, hein, ce serait cool.
Voilà l'actu du lundi de Sandrine Houdin avec Georgia Stein. Pour la soutenir, rendez-vous donc le 28 avril au Trocadéro à Paris ou sur la page Facebook du mouvement Viol Size Catwalk, le podium pour toutes les tailles. Pour info, selon l'Institut français du textile et de l'habillement, il faut savoir que 40% des Françaises portent du 44 et plus. L'information de la matinée, à l'instant, une nouvelle explosion dans la capitale sri-lankaise, Colombo. Explosion qui s'est produite ce matin pendant une opération de déminage. Déminage d'une bombe située dans une camionnette arrêtée justement à proximité d'une église. On ignore dans l'immédiat si cette déflagration a fait de nouvelles victimes. Le temps.
La météo avec Gauthier, le fabricant français de mobilier contemporain qui met de la vie dans les espaces, salons, séjours et les chambres pour petits et grands.
La Corse du Sud, toujours en vigilance orange pour le vent, Elodie Calac.
Le vent reste très fort jusqu'en milieu d'après-midi sur la Corse du Sud. Il peut encore atteindre 100-130 km à l'heure. Ça souffle aussi sur la Haute-Corse, sur le Var, jusqu'à 90 à 100 km à l'heure. Le vent d'autan, lui, atteint 50 à 70 km à l'heure. Sur l'ouest et le tiers sud, c'est bien nuageux. On n'est pas à l'abri d'une ondée, en particulier de la Bretagne et de la Normandie vers le Limousin, parfois avec un coup de tonnerre. Sur l'est de la Corse, c'est de la pluie. Ce soir et cette nuit, de bonnes pluies, parfois orageuses, vont gagner le Languedoc-Roussillon. Ce temps agité concernera tout le pourtour méditerranéen demain. Du nord de la Seine au Grand Est et au nord des Alpes, là on a encore beaucoup de soleil cet après-midi. Les températures restent très douces, 27 degrés à Grenoble, 26 à Paris, Strasbourg, Lyon et Marseille, 25 à Lille et à Nevers, 23 degrés à Deauville, à Nantes, 21 à Bordeaux et 19 à Perpignan.